Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Ça. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Cette semaine dans Univox, Radio Campus Montpellier vous propose un éclairage sur un sujet encore trop souvent marginalisé. Aujourd'hui, nous parlons prostitution et travail du sexe.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Interroger la notion de prostitution et de travail du sexe revient ainsi à questionner le rapport au corps, à l'intimité et à la sexualité au sein de notre société. Plus encore, cette question peut recouvrir des thèmes variés tels que la précarité étudiante, le rapport homme-femme ou encore la place des personnes en situation de handicap. Il s'agit donc d'un sujet vaste, complexe et souvent délicat. Depuis la loi du 13 avril 2016, visant, je cite, à « renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et accompagner les personnes prostituées », l'État français a choisi d'interdire l'achat d'actes sexuels en France. Autrement dit, la loi pénalise les clients. Et face à cela, de nombreuses personnes, associations et institutions prennent la parole pour, d'abord, briser un tabou encore parfois existant, et ensuite, défendre leur point de vue vis-à-vis de la situation actuelle. Alors, pour mieux comprendre les différents discours prenant place dans ce débat, j'ai recueilli les témoignages de Guillaume Bourdiot, Ingrid Ligo et Kido. Tous les trois prennent part à ce débat pour apporter leur vision des choses. Ainsi, Ingrid présente le discours défendu au sein de son association, le Mouvement d'Uni 34.
Donc moi je m'appelle Ingrid, j'ai 31 ans et je suis travailleuse humanitaire et c'est vrai que j'avais envie d'avoir un engagement bénévole qui avait du sens auprès d'une association militante et qui travaille sur des questions de société et c'est pour ça que j'ai rejoint le Mouvement d'Uni.
Et du coup, est-ce que tu peux nous parler plus précisément de cette association, donc du Mouvement d'Uni ?
Donc c'est une association qui existe depuis les années 30. C'est une association qui existe au niveau national, mais qui a plusieurs délégations dans toute la France. Actuellement, il y a 26 délégations et la dernière qui a été ouverte, par exemple, c'est en Martinique. Donc on couvre une large partie du territoire français. Et c'est vrai qu'au cours de l'histoire, il y a eu une scission avec l'Amicale du Nid. Donc avant, c'était le Nid. Et dans les années 70, il y a effectivement eu séparation, dans le sens où l'Amicale du Nid travaille plus sur des questions d'hébergement et vraiment un mouvement professionnel avec des travailleurs sociaux, alors que le Mouvement du Nid est vraiment un mouvement qui repose sur l'engagement de bénévoles et qui est vraiment un mouvement militant sur la question de la prostitution.
Sur quel point vous vous positionnez ? Est-ce qu'il y a des thématiques en particulier sur lesquelles vous êtes plus actif ?
Le Mouvement d'Uni, clairement, travaille sur la question de la marchandisation des corps et vraiment s'oppose à tout ce qui est marchandisation des corps. Donc l'idée est effectivement de travailler en premier lieu sur la question de la prostitution, puisque c'est, disons, une des thématiques qui est la plus ancienne. Mais pour autant, ça touche également toutes les autres thématiques qui peuvent avoir un lien avec la marchandisation. Donc, pour ce qui est la question de l'assistance sexuelle, par exemple, pour les personnes en situation de handicap, c'est aussi quelque chose contre lequel on milite, puisque dans ce cas, si on autorise la vente, l'accès marchand à un corps dans ce cas-là, qu'est-ce qui différencierait la situation des personnes en situation de handicap des autres personnes. Donc voilà, c'est vraiment toutes les questions générales. Donc ça touche aussi à la pornographie, qui pour nous, en fait, est une autre forme de prostitution filmée, et la GPA et tout ce genre de thématiques.
Alors, avec ton association, vous défendez le point de vue abolitionniste. À quoi ça correspond ?
C'est lié au point que je mentionnais tout à l'heure par rapport à la marchandisation des corps. Donc l'abolitionnisme, c'est une position qui lutte et qui veut mettre fin au système prostitueur et donc à la prostitution. L'idée n'est pas de légaliser la prostitution avec l'institution de maisons closes ou ce genre de choses, mais vraiment de mettre fin à ce système qui est finalement un système de domination et d'exploitation, le plus souvent de l'homme sur la femme. Par exemple, il y a 85% des personnes en situation de prostitution qui sont des femmes. Et la majeure partie des clients sont des hommes. Même pour les personnes en situation de prostitution qui sont des hommes ou des personnes transgenres, les clients restent le plus souvent des hommes. Donc c'est vraiment un système de domination sur la femme et également des riches sur les plus pauvres, puisque il y a 93% des personnes en situation de prostitution qui sont étrangères, qui sont le plus souvent issues de la traite des êtres humains, donc qui sont arrivées par le biais de réseaux de proxénétisme ici en France, dans le but de se prostituer. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre fin à ce système prostitueur où les clients et les proxénètes exploitent des personnes qui sont déjà en situation de vulnérabilité et de leur permettre de sortir de cette situation.
Alors, tu parles de personnes en situation de prostitution. Pour ton association, c'est quoi la différence entre travailleurs, travailleuses du sexe et prostituées ?
Alors nous, on n'emploie pas du tout le terme de travailleurs du sexe, justement parce que pour nous, c'est pas un travail, c'est vraiment des personnes, la plupart des personnes sont des personnes qui sont victimes du système prostitueur et qui ne choisissent pas de faire cette activité. Et donc du coup, la question de travail du sexe, peut-être que c'est le cas pour quelques personnes qui choisissent délibérément, et encore il faut étudier dans quelles conditions elles font leur choix, etc. Mais vraiment, ce n'est pas représentatif de l'ensemble des personnes qui se retrouvent en situation de prostitution, et on insiste vraiment sur ça.
Est-ce qu'on arrive à avoir une certaine estimation du nombre de personnes qui se trouvent en situation de prostitution en France actuellement ?
Forcément, c'est un chiffre qui est difficile à avoir. Selon les estimations, il y aurait autour de 37 000 personnes en situation de prostitution. Donc il y a des estimations qui varient entre 30 000 et 44 000. Mais voilà, en moyenne, on parle de 37 000 personnes en situation de prostitution. Et en France, on estime entre 7 et 10 000 le nombre de personnes en situation de prostitution qui sont mineures.
Et donc, de quelle manière et ou par quel type d'action vous défendez votre point de vue et vous militez ?
On a effectivement différents axes d'intervention. La base du mouvement d'Uni, c'est vraiment la rencontre. Aller vers les personnes en situation de prostitution, sur les lieux de prostitution, dans un premier temps dans la rue effectivement, mais la prostitution sur Internet s'est aussi beaucoup développée. Donc c'est aussi quelque chose qu'on fait. On a des cellules Internet où on va vers les personnes. L'idée, c'est vraiment de dire aux gens qu'on est là, de savoir comment ils vont et qu'ils puissent savoir qu'on existe et qu'elles puissent se tourner vers nous plus tard. On a aussi tout un pôle accompagnement. C'est-à-dire qu'en fonction des besoins de la personne, on peut l'accompagner dans ses démarches administratives, dans ses démarches médicales. Vraiment, on a un accueil inconditionnel, mais l'idée, c'est vraiment de les accompagner en fonction de leurs besoins. On a aussi un aspect de formation pour le public professionnel. Donc ça peut être les travailleurs sociaux ou toute personne qui est susceptible de se confronter un jour à la question de la prostitution. L'idée, c'est vraiment de former les gens pour qu'ils puissent bien comprendre et être à même d'agir si jamais ils se retrouvent confrontés à cette problématique. Et après, puisqu'on est une association militante et vraiment qui veut peser sur les politiques publiques, on a toute une partie de sensibilisation du grand public sur nous, ce qu'on appelle le système prostitueur. Donc on fait vraiment de la sensibilisation du grand public sur cette question par des événements autour de la question des droits de la femme et de la violence du système prostitueur, et surtout en laissant la parole aux survivantes, donc des personnes qui ont été en situation de prostitution. Et donc les survivantes vraiment insistent sur la violence de ce système et sur le fait qu'elles soient victimes de ce système. Et enfin, on a tout un aspect de prévention auprès des jeunes, avec vraiment l'idée que c'est la future génération qui va permettre d'assurer une égalité entre les sexes et du coup de mettre fin à ce système prostitueur. Et donc on travaille beaucoup sur la prévention.
Depuis que la loi de 2016 a été mise en place, donc qui pénalise les clients, est-ce que vous avez pu observer des évolutions ? Tu disais que vous alliez beaucoup vers la rencontre. Est-ce que justement, à travers ces rencontres, vous avez pu constater une évolution ?
Effectivement, les personnes qu'on rencontre et les personnes qu'on accompagne dans nos actions note clairement que l'inversion de la charge pénale, c'est-à-dire effectivement faire appel au service d'une personne en situation de prostitution, est illégal. Ça permet aux personnes en situation de prostitution d'avoir un vrai poids face aux clients et de dire, en fait, tu devrais pas être là, tu es en tort, et donc elles se sentent plus en sécurité. La loi a vraiment permis ça. Après, le vrai problème, c'est effectivement que les moyens de mise en œuvre de la loi restent malheureusement insuffisants. Une des dispositions de la loi prévoit que les personnes peuvent sortir de la prostitution, notamment un parcours de sortie de la prostitution. Pour les personnes étrangères, ça veut dire potentiellement la possibilité d'obtenir un emploi et de, à terme, obtenir des papiers, des titres de séjour. Et ça, ça reste finalement assez minoritaire, assez peu mis en œuvre. De même que la pénalisation du client, finalement, il y a assez peu d'amendes qui sont données aux clients prostitueurs. Donc vraiment, la loi a amélioré la situation des personnes en situation de prostitution, mais il y a vraiment besoin de renforcer encore la mise en œuvre de cette loi pour améliorer encore leur situation et, on l'espère, mettre fin au système prostitueur.
Univox.
Merci à Ingrid pour ce témoignage. Pour continuer, Radio Campus Montpellier a choisi de donner la parole à Guillaume Bourdiot, auteur du livre « Guillaume au pays d'Alice » dans lequel il défend l'assistance sexuelle. Il a accepté de venir nous rencontrer en plateau pour parler de son expérience.
Je m'appelle Guillaume Bourdiot, j'ai 24 ans. J'ai un diplôme d'animateur social. Mon parcours professionnel, il peut se résumer, j'ai commencé par un DUT carrière sociale. Option service à la personne, malheureusement j'ai dû l'arrêter pour des problèmes de santé. Ensuite, j'ai fait un service civique qui m'a permis de trouver un peu ma vocation avec les personnes âgées et qui m'a donc amené vers le diplôme d'animateur en EHPAD. Voilà. Et du coup, j'ai aussi écrit un livre, c'est un plaidoyer pour l'accompagnement sexuel en France, sa légalisation, et c'est aussi l'histoire de ma vie. Et c'est basé sur mon expérience.
Pourquoi avoir écrit ce livre et dans quel but ?
J'ai écrit ce livre pour plusieurs raisons. La première, c'était que en fait, je voulais un peu déjà raconter mon histoire perso depuis tout petit, par rapport à mon handicap et tout ce que j'ai vécu. Et ensuite, du coup, il y a cette fameuse expérience que j'ai vécue avec Alice. Du coup, dans le titre de mon livre, je raconte mon expérience avec Alice, mon escort girl. Du coup, grâce à elle, j'ai découvert la sexualité, parce que je n'en avais pas. Et donc, du coup, à travers mon livre, en fait, je voulais aussi essayer de faire avancer les choses, parce que en France, la sexualité des personnes handicapées est, en fait, c'est comme si elle n'existait pas, on s'en fiche. Donc, et pour moi, en fait, cette expérience illégale et interdite avec Alice m'a vraiment fait évoluer dans le bon sens, d'après moi. Donc, du coup, je m'étais dit, il faut que je raconte ce que j'ai vécu, parce que je pense que je peux aider d'autres personnes à peut-être ça peut leur faire beaucoup de bien comme moi ça l'a été. Et plus globalement, je veux que la France évolue sur ce sujet, parce que du coup, l'accompagnement sexuel est légal dans plein de pays dans le monde, et donc en France, c'est illégal, et c'est tabou, et on s'en fiche, et ça, moi, ça me convient pas, et je voulais, à travers le livre, je voulais essayer de faire avancer les choses. Et dernière chose aussi, c'est parce que, en racontant mon histoire avec Alice, je voulais aussi un peu casser les préjugés, car moi, je suis le client qui fait recours à Alice, donc je suis un salaud, et Alice, elle vend son corps à des hommes, donc elle ne se respecte pas. Donc du coup, moi, à travers mon récit, je voulais montrer qu'on était des personnes comme nous tous,
et voilà. Et justement, ta rencontre avec Alice, comment ça s'est passé? Comment tu l'as rencontrée?
Du coup, j'ai pris, à un moment donné de ma vie, à 22 ans, j'ai pris la décision de découvrir la sexualité par ce biais-là, donc de l'escort girl. Donc du coup, j'ai fait des recherches sur Internet, et il se trouve que j'ai bien aimé le profil d'Alice, et elle était plutôt plus âgée que moi, donc je pensais que ça pouvait être bien pour vivre l'expérience. Et donc du coup, on s'est contacté par mail. Et de fil en aiguille, il y a eu un coup de téléphone et on a fixé un rendez-vous. Et ensuite, il y a eu plus d'une vingtaine de rencontres entre nous en un peu plus d'un an et voilà.
Ok. Et alors, comment tu définirais, toi, l'assistance sexuelle ?
Pour moi, l'assistance sexuelle, c'est permettre à une personne handicapée qui n'arrive pas à accéder à la sexualité de pouvoir en avoir une par le biais d'une personne formée pour ça, avec diverses formations de droit, formation au corps, formation au handicap. Et donc du coup, ça peut correspondre à des personnes gravement handicapées, notamment. Mais après, ça peut être aussi deux personnes en couple, par exemple, en fauteuil roulant. Du coup, ils savent pas trop comment faire, parce que c'est pas évident. Donc du coup, l'assistante ou l'assistant, elle peut les aider à se positionner dans le nid, à trouver, à se mettre à l'aise. Et donc voilà, ça ne se résume pas à une pénétration.
Bien sûr.
Et voilà. Et après, il y a aussi un autre aspect, c'est l'aspect de l'éducation sexuelle, notamment dans les institutions. Et donc du coup, là, les assistantes, elles pourraient intervenir pour expliquer plein de choses aux résidents, enfin aux jeunes, par exemple à des personnes autistes ou et en gros expliquer ben, qu'est-ce que c'est la sexualité, parce que il y a des personnes autistes, elles ne comprennent pas en quoi ça consiste, ou aussi par exemple expliquer à une jeune fille ce que c'est la contraception, par exemple, et parce que du coup là on se repose sur les éducateurs, donc ils le font assez bien, mais je pense que ça serait bien aussi qu'il y ait des personnes.
Ouais, il y a des possibilités d'amélioration.
Voilà, parce que c'est vrai que dans les institutions, ça reste très très tabou. Enfin, la sexualité, donc voilà.
D'accord. Et comment t'envisages l'avenir de l'accompagnement sexuel en France ?
Bah, du coup, je l'envisage, je suis un peu partagé. Parce que du coup, je pense vraiment que l'opinion française est favorable. Et à travers mon livre, j'ai pu remarquer que les gens, ils sont plutôt pour. Et en fait, je pense qu'ils ont aimé me lire. Parce que ça leur a permis de comprendre un peu mieux ma démarche. Et du coup, la démarche de plusieurs personnes handicapées par rapport à ce questionnement-là. Mais après, c'est sûr que la législation française, c'est quand même compliqué parce que l'accompagnement sexuel, ça reste un échange monétaire entre deux personnes pour un acte sexuel, parce que dans certaines situations, donc ça reste illégal, donc c'est compliqué. Voilà. Après, je pense qu'il y a des pistes d'amélioration, notamment par rapport au dernier avis du Conseil national d'éthique. Parce que par exemple, il propose des centres en ressources, notamment pour le côté institution. Et pour le côté. Donc pour aider les personnes handicapées à être plus autonomes sur cette question et qu'ils aient plus d'aide. Mais après, en termes de sexualité pure, notamment pour les personnes très gravement handicapées, le Conseil national d'éthique reste bloqué sur la loi de 2016. Ils veulent pas se mettre en travers de cette loi. Donc du coup, ils veulent pas avancer sur ça. Ça va être compliqué d'avancer. Et c'est pour ça que moi, je suis un peu partagé. Voilà.
D'accord.
Mais voilà, on peut voir le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Mais voilà, quoi qu'il en soit, la législation française, c'est compliqué. Voilà.
Et toi, du coup, du fait d'avoir fréquenté une travailleuse du sexe, du fait d'avoir écrit un livre et donc avec toutes les recherches que ça a dû entraîner, est-ce que ton point de vue sur la situation de travailleuse du sexe, il a évolué ?
Mon point de vue sur le travail du sexe a changé depuis l'écriture de mon livre, parce qu'au début, moi, je suis resté vraiment sur ma situation, mon expérience, et c'est vrai que même par rapport à mes proches, par rapport, en fait, j'avais honte en fait du travail du sexe, un peu honte de ma démarche à moi, d'avoir du coup payé une femme pour avoir une sexualité, mais en fait, maintenant avec le recul, je veux dire, j'ai parlé avec plein de travailleuses du sexe, avec diverses associations, et en fait je pense que il faut parler ouvertement du travail du sexe en France, parce que voilà, on est tout à fait d'accord que la grande majorité du travail du sexe, c'est du travail forcé, donc ça il faut travailler dessus pour essayer de le réduire un maximum. Mais après, je pense que à travers mon expérience, à travers le livre, il y a quand même pas mal de travailleurs du sexe qui le font par choix. Et celles-là, en fait, on les ignore complètement, elles n'existent pas, et donc ça, moi, ça me convient pas, et donc du coup, voilà, moi, je pense vraiment qu'il faudrait ouvrir le débat et revoir cette loi de 2016, même si, voilà, ça serait un peu compliqué, mais en tout cas, il faut vraiment ne pas les oublier, même, elles doivent faire partie du débat, elles doivent avoir des droits, et voilà, parce que moi, je pense qu'il y a un climat de putophobie en France, et voilà. Elles le méritent pas et c'est dangereux pour elles. Même si elles sont minoritaires, clairement, on va pas se le cacher. Elles existent et les laisser sur le bord de la route, ben, c'est pas une solution, parce que voilà.
Bien sûr.
Voilà, les précariser, voilà. Et elles méritent tout à fait d'être dans le débat, d'avoir des droits. Voilà. Et merci à toi et à vous d'en parler.
La question de l'assistance sexuelle ne doit donc pas être oubliée dans le débat, sous peine de laisser de côté toute une facette du sujet. Alors pour conclure cet éclairage et compléter les témoignages précédents, nous avons pu échanger par téléphone avec Kido, directement concernée puisqu'elle cumule ses études et son activité de travailleuse du sexe.
Univox.
Du coup, je m'appelle Kido, j'ai 26 ans.
et je suis travailleuse du sexe. Je fais aussi un peu de d'art pute, d'art pour militer pour les droits putes. Et voilà, je suis étudiante à côté sur Lyon.
Et donc, tu exerces depuis combien de temps en tant que travailleuse du sexe?
Donc maintenant, ça fait 6 ans. Et je suis passée par plusieurs professions du travail du sexe. Donc, j'ai commencé par faire de la webcam porno. Ensuite, j'ai été sugar baby. Et puis, finalement, j'ai commencé l'escorting. Et encore aujourd'hui, c'est ce que j'exerce.
D'accord. Et pourquoi as-tu commencé à faire ça?
Parce que j'avais besoin de travailler en fait tout le long de ma vie étudiante. J'ai toujours cumulé des travails en même temps, ou alors j'ai fait des pauses dans mes cursus et je travaillais seulement toute l'année. Et en fait, le dernier travail, on va dire formel entre guillemets, que j'ai fait, ça s'est très mal passé. Déjà au niveau du rythme de travail, c'était très intense. Enfin, j'étais sur un 35 heures semaine avec des heures sup qui étaient pas prévues, mais voilà. Et du coup, c'était dans une boulangerie, une restauration rapide. Enfin, j'ai travaillé dans des équipes et j'ai subi du harcèlement sexuel en fait au sein de l'équipe, d'un coéquipier. Et donc, au moment où j'ai décidé d'en parler au patron, finalement, ça s'est retourné contre moi. Donc, j'ai été virée à la fin de ma période d'essai, alors que je travaillais très bien. Enfin, j'étais une des meilleures équipières. C'est à partir de cette expérience-là que je me suis dit que j'avais changé de travail, en fait, de type de travail. Enfin, que j'en avais un peu marre d'être, entre guillemets, exploité par des grandes chaînes et que les conditions de travail étaient très mauvaises. Et j'avais pensé au travail du sexe depuis longtemps. Enfin, j'en avais parlé à mon entourage et évidemment, ça a toujours été mal reçu. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais entourée de personnes qui étaient TDS et militantes. Et donc, ça m'a aidé à me lancer et ça m'a convenu comme forme de travail.
Ok, d'accord. Et comment tu arrives à gérer ça en parallèle de tes études, justement?
Là, actuellement, je suis dans des études littéraires et de gender studies. Du coup, c'est axé un peu sur le féminisme. Et là, j'essaie d'amener un peu ces problématiques-là dans le milieu féministe institutionnel, enfin dans le milieu universitaire. C'est pas évident, mais des fois ça fonctionne parce que il y a des gens qui, des profs ou des personnes qui comprennent que militer pour les droits des TDS, c'est des droits féministes en fait, droit à l'autodétermination, le droit à l'autogestion, à disposer de son corps, et c'est des bases des luttes féministes. Après, je rencontre quand même beaucoup de difficultés. Notamment au niveau administratif, comme beaucoup de TDS, soit déclaré, soit pas déclaré, le travail du sexe n'est pas reconnu comme un travail, donc je peux pas avoir un statut similaire aux autres étudiants travailleurs. Ça arrive qu'il y a des personnes qui aient des contrats, par exemple, dans des clubs ou des choses comme ça, et comme c'est du travail du sexe, c'est pas reconnu, on dit non, vous n'êtes pas travailleur, enfin, comme c'est pas reconnu comme un travail, voilà quoi. Donc, on n'a pas le droit à des dispenses d'assiduité, on n'a pas le droit à un aménagement de l'emploi du temps, comme certains étudiants peuvent avoir. Et puis, il y a aussi beaucoup de stigma dans les milieux universitaires. J'ai aussi été en école d'art et ça a été très compliqué. J'ai pas terminé mon cursus complètement parce que il y avait une professeure qui m'avait pris en grippe parce que j'étais TDS et que je l'assumais pleinement en fait et que je travaillais autour de ça. Et du coup, ouais, c'est mentalement épuisant de militer et d'être en études parce qu'on s'en prend quand même pas mal dans la gueule quoi, au niveau, enfin c'est des discriminations en fait.
Et justement, quelles revendications un peu toi tu t'envisagerais pour améliorer ça, que ce soit au niveau de la loi de 2016 peut-être ou au niveau de la précarité étudiante de manière plus générale?
Bah, pour ce qui est de la loi de 2016, du coup, qui pénalise les clients, plus le cadre législatif autour du proxénétisme qui désigne en fait tous les proches des TDS comme des proxénètes. C'est-à-dire que si on aide, si moi je suis aidée par quelqu'un pour le logement ou pour, je sais pas, des courses, cette personne va être considérée comme proxénète. Donc ça fait qu'on est vachement isolé, vachement stigmatisé par la loi en fait. Donc ça qui empêche l'autogestion, plus la loi de 2016 qui nous empêche de travailler correctement, dans des conditions juste normales en fait, de pouvoir imposer nos conditions d'exercice de travail, nos tarifs, nos conditions d'hygiène et enfin de réduction des risques, parce que là c'est, depuis cette loi c'est de plus en plus compliqué d'imposer le port du préservatif, de trouver des clients tout court d'ailleurs, et de, avec cette loi de proxénétisme, d'avoir un accès au logement, un accès aux soins aussi, ça peut être compliqué quand on est TDS, un accès aux droits. Enfin, il y a plein de choses qui manquent. Du coup, au niveau des revendications pour le TDS, ce serait effectivement de décriminaliser totalement l'exercice du travail du sexe, et ça permettrait en fait qu'on s'organise entre nous, parce qu'on est déjà très organisés entre nous. On a déjà plein de supports pour pouvoir se protéger et s'autogérer. Mais c'est juste que comme les lois nous criminalisent, ça nous empêche de faire beaucoup de choses. Donc ça nous permettrait de nous autogérer, d'aider les collègues qui veulent arrêter, d'aider les collègues qui sont pas dans des bonnes conditions de travail, etc. Donc ce serait beaucoup plus simple si c'était pas criminalisé. Et pour ce qui est des conditions de vie étudiante, ce serait tout simplement un accès à un logement digne, pas un 10 mètres carrés dans des résidences étudiantes. Là, pendant le confinement, ça a été horrible pour plein de personnes qui sont dans des résidences CROUS, par exemple. Et ça fait, c'est pas nouveau, hein, ça fait des années que c'est comme ça. Donc, un accès au logement sans discrimination raciste, de nationalité, d'identité de genre ou d'orientation sexuelle. Il faudrait qu'il y ait des bourses aussi pour les étudiants qui n'ont pas la nationalité française et ou ceux qui reçoivent plus de ressources de leurs parents. Par exemple, les personnes LGBT sont souvent rejetées par leurs parents, mais sur le papier, ils sont toujours rattachés au foyer familial. Et que les travailleurs non déclarés soient reconnus comme des travailleurs et qu'ils aient accès à des conditions aménagées, parce que souvent dans des études, déjà, quand c'est reconnu comme un statut où vous êtes étudiant-travailleur, on subit quand même des inégalités par rapport à ceux qui n'ont pas besoin de travailler. Mais en plus, quand c'est pas reconnu, qu'on doit être là en cours à plein temps et qu'on doit assumer un travail à côté sans rechigner parce qu'on a du retard sur un truc et tout, c'est encore plus complexe. C'est deux choses-là qui seraient importantes.
Vous l'aurez compris, la prostitution et le travail du sexe recouvrent des situations qui peuvent être bien différentes les unes des autres. Les discours venant nourrir le débat diffèrent, s'opposent parfois donc, témoignant de cette diversité des réalités vécues et ressenties. Cette complexité rend donc d'autant plus nécessaire de mettre en place une discussion constructive et apaisée. Et s'il y a bien un point sur lequel s'accordent Ingrid, Kido et Guillaume, c'est bien cette volonté d'ouvrir la discussion sur ce sujet. Alors nous espérons que ces témoignages marqueront une étape supplémentaire dans l'avancée de ce débat et que ce reportage vous aura intéressé. Il ne s'agit ici que d'un éclairage sur un sujet bien plus vaste, alors n'hésitez pas à vous documenter plus en profondeur. De nombreuses ressources existent, alors profitez-en.
Cette émission vous a été présentée par Alexandre Gentil de Radio Campus Montpellier pour Radio Campus France. Univox.